qui ont réussi à l'échelle universelle. Et par le fait d'ailleurs qu'ils ont réussi leur objectif, finalement, l'histoire montre qu'ils ont disparu comme tels. Enfin, le peuple grec contemporain est bien entendu héritier d'une certaine manière de ce qu'a été le peuple grec de ce temps-là, de la période hellénistique, mais en réalité, finalement, il n'a plus rien à voir. Et tout se passe comme si ce peuple grec de cette civilisation de ce temps-là a réussi ce qu'il avait à réussir dans son histoire et a disparu. Et donc, corollairement, tout se passe comme si le peuple hébreu, qui donc est juste à cette époque, et en particulier à cette époque, avait un objectif différent dans le problème de la culture universelle, lui n'a pas encore achevé sa tâche. Je crois que la manière... Pardon ?
La science, le conflit est toujours le même entre l'Europe et le judaïsme. Enfin, c'est la science, l'Occident...
Non, ça semble... Non. L'Occident est héritier de la mentalité grecque à ce niveau-là. Sur ce point, je ne suis pas encore arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que... je vais vous prendre ce problème par un autre biais. Il est possible que je dois m'arrêter de parler parce que j'ai quelque chose qui ne marche pas dans mon appareil. Je n'arrive pas à parler. Mais enfin, si ça marche, ça marche. Sinon, je me répète. Vous ne sentez pas que je n'arrive pas à parler? Donc, le problème, c'est que... je vais prendre le problème à un premier niveau. Au fond, l'humanité est à la recherche de retrouver la langue universelle. Or, tout se passe comme si les Grecs ont réussi une partie de cette recherche. Et la langue universelle, à l'échelle de la connaissance du phénomène matériel, a été retrouvée à travers le génie grec. Vous voyez, essayez de comprendre une sorte de spécialisation de la vocation culturelle entre la Grèce d'un côté et Israël de l'autre, attachée au même problème. Retrouver la langue unique, universelle. Or, on voit que le problème a été divisé en deux. Au niveau matériel, les Grecs ont réussi à faire des mathématiques le langage de toutes les sciences. Mais quelles sciences? Les sciences du monde matériel. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon. Et par conséquent, tout se passe comme si l'identité grecque va être polarisée par son propre travail, une sorte de déformation professionnelle qui va arriver, et l'âme grecque en tant que telle n'est sensible qu'à cet aspect de la réalité. Tout ce qui est de l'ordre quantitatif, impersonnel, le phénomène matériel, le phénomène inerte, et donc le monde déterminé. Voilà un premier aspect, si vous voulez, de l'univers, et par rapport au problème de la langue unique, il est bien évident que c'est une réussite. Et c'est une réussite à l'échelle universelle. C'est-à-dire, cette espèce d'élaboration, à partir du creuset de la mentalité grecque à l'origine, enfin en ce temps-là, va devenir vraiment un langage universel pour l'humanité entière. Chaque fois que quelque part dans le monde, on s'attache au problème de faire la science, on commence par les commencements de la pensée grecque. Et on utilise finalement les méthodes et le langage qui a été élaboré par la culture grecque. Est-ce que c'est clair? Bon. Voilà le premier aspect du problème. Je veux dire que, quelle que soit l'origine culturelle d'un savant, du point de vue de son ethnie, qu'il soit chinois, japonais, russe, américain, tout ce que vous voudrez, finalement il y a un langage universel de la science des phénomènes matériels, c'est la mathématique telle que les Grecs l'ont perçue et l'ont formulée. Vous savez, dans les cultures de l'Antiquité, avant et en même temps que la culture grecque, la mathématique était connue, mais elle n'a pas débouché à ce niveau de langage des sciences ce que le génie grec a permis de faire. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a bien compris cela? Bon. Alors, il y a donc une option de l'esprit qui fait que, finalement, on aura tendance à faire passer tout l'ordre des phénomènes de l'univers, qu'il soit matériel ou non, et qu'il soit, d'autre part, en particulier le phénomène spirituel, à travers le moule de représentation que l'esprit grec, auquel l'esprit grec s'est habitué, je dirais, puisque je parle en tant qu'hébreu, par déformation professionnelle, à percevoir l'ensemble du phénomène du monde, le phénomène humain y compris, à travers ce moule de représentation la catégorie mathématique qui mène à une perception déterminée et quantitative de la réalité. Est-ce que c'est clair? Bon. À l'opposé de cela, nous voyons que le génie hébraïque s'est développé à un tout autre niveau. L'âme hébraïque, elle, est sensible. Ce que je vous dirais, bien entendu, très schématique, et pas seulement dans le vocabulaire, mais dans les idées, est sensible à un tout autre aspect de la réalité. Tout ce qui dans le monde est de l'ordre de la qualité, de la liberté, de la personnalité, de la moralité. Donc, et vous voyez, deux polarisations radicalement différentes du génie culturel. D'un côté, l'hébreu, qui va donner le prophète, de l'autre côté, le grec, qui va donner le savant. Vous suivez? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire la Bible ne pouvait être donnée que par les Hébreux. Bon. La physique ne pouvait être donnée que par les Grecs. Tout ceci, encore une fois, est très schématique, mais je nuancerai tout à l'heure. J'ai l'impression que mon appareil est en train de s'arranger. Bon. Et alors, le conflit est apparu dans la rencontre entre ces deux cultures. Et étant donné que la société grecque avait la suprématie militaire, politique, l'Empire grec avait conquis tout le monde civilisé de l'époque, la Judée, rescapée des Hébreux, va se trouver être sous domination politique grecque. Or, en ce temps-là, et c'est vrai pour l'Empire grec, ça a été vrai par la suite pour l'Empire romain, c'était vrai déjà pour l'Empire perse, tel qu'on l'apprendra à propos de Pourim. En ce temps-là, il y avait un principe des empires qui est qu'on intégrait les cultures des pays colonisés. Et que les cultures des pays colonisés prenaient place, étaient intégrées dans l'ensemble de la culture de l'empire. Et par conséquent, si vous suivez cela dans l'histoire de l'élaboration des grands empires, même les cultes et les religions, et donc les divinités des pays colonisés, étaient finalement intégrées dans les conceptions générales de l'Empire. C'était vrai pour l'Empire romain, c'était vrai pour l'Empire grec, ça a été vrai pour l'Empire perse. Chaque fois, on va se heurter à un cas particulier, inintégrable, le cas de la société d'Israël. Et ça a été vrai dans l'Empire perse, ça a été vrai dans l'Empire grec, ça a été vrai dans l'Empire romain. Vous comprenez ce principe? Par exemple, comment les Romains trouvaient ça dans Tacite, je pense. C'est bien Tacite, oui. L'historien latin, non, il y en a un autre, Suétone. Ben, c'est dans les deux, mais surtout dans Tacite, que les Romains ont été très embêtés lorsqu'ils ont voulu procéder avec les Judéens, comme ils avaient procédé avec toutes les autres sociétés. C'est-à-dire intégrer dans leur panthéon les divinités de la société qu'ils venaient de coloniser. Que ce soit les Carthaginois une fois vaincus, ou bien les Bretons ou les Germains, peu importe. Tout simplement parce qu'il n'y avait rien à intégrer. Et c'est là qu'on trouve chez les historiens latins cette accusation apparemment bizarre que les Juifs étaient un peuple daté. Parce qu'on leur demandait, montrez-nous votre Dieu, qu'on puisse l'ajouter dans le Panthéon. Et bien on ne pouvait rien leur montrer. Vous comprenez cela? Mais en particulier, il y a eu ce diagnostic qu'il y avait là une identité humaine d'un tout autre ordre, inassimilable à la conception impérialiste de l'universel tel que chacun des empires l'a élaboré. Vous rappelez les premiers cours que nous avons eus sur ce problème après la dispersion des nations. Vous rappelez de cela? Et chaque fois, effectivement, on se heurte à un cas particulier, inassimilable. Vous retrouverez dans le livre d'Esther l'argumentation des Amalécites, qui était la classe dirigeante politique dans l'Empire perse, avec Aman, qui est que il y a un cas particulier, toutes les provinces de l'Empire acceptent la constitution de l'Empire, sauf les Juifs qui ont des lois à eux, à part. On ne peut pas intégrer ce peuple dans la conception de l'universel de l'Empire. Ces empires-là, en général, avait une constitution, en tout cas officielle, extrêmement libérale. C'est-à-dire chaque nation est intégrée dans l'ensemble. Je dis bien officielle. Et je crois que l'exemple le plus évident de notre temps, c'est lequel, avec ce même problème, on peut intégrer toutes les nationalités, toutes les cultures. Il y en a une qui fait cas particulier, qu'on n'arrive pas à intégrer, c'est où ? En Russie. C'est tellement évident à quel point ça ressemble, okay, que c'est pratiquement la même chose. En principe, ça ne ferait aucun problème d'intégrer les autres nationalités, et voilà qu'il y a un cas particulier pour les juifs. En réalité, énormément de minorités sont persécutées en Russie, mais opprimées. Seulement, ce n'est que à propos du cas des juifs que cela se dévoile, que cela se révèle. Si vous avez suivi tous les événements de ces dernières années, énormément de minorités de l'Empire soviétique se rebellent contre le pouvoir central, mais ça a été déclenché à propos du cas particulier des juifs, qui, comme d'habitude, est une sorte de cas de paroxysme qui pose ce problème de façon dominante. Et le conflit a été donc pas seulement d'une culture de l'Empire par rapport à une province plus rebelle que les autres, mais vraiment on s'est heurté à une identité culturelle radicalement opposée. C'est-à-dire, c'était ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire, si la culture hébraïque subsistait à travers les Judéens, ça mettait en échec la conception du monde des Grecs. Ce que je veux dire, c'est ce qui s'est passé là et qui a mené la tradition à noter que l'événement de Hanouka se passait en ce temps-là, c'était l'envergure de ce conflit. Il ne s'agissait pas seulement de célébrer une victoire militaire d'indépendance nationale comme on pouvait trouver dans l'histoire de n'importe quel peuple, mais de célébrer la possibilité d'avoir retrouvé l'authenticité ou l'intégrité de la culture hébraïque qui aurait été en danger de disparition si la culture grecque en avait été victorieuse. Voilà donc le diagnostic que les Grecs ont fait. Il s'agit d'annuler à la racine l'identité hébraïque telle qu'ils l'ont rencontrée parce qu'elle était exactement l'opposé de leur conception du monde. Alors je voudrais analyser un peu plus tout cela. C'est-à-dire, il y a asymétrie dans ce conflit. C'est-à-dire que l'hébreu peut s'attacher au problème du grec et l'y aider. C'est-à-dire, l'hébreu peut entrer dans l'univers mathématique. Et énormément de membres d'Israël, à travers les siècles, ont collaboré à cette tâche des goïms, telle qu'elle se cristallise dans l'identité grecque, et avec réussite. Pour le dire d'une autre manière, n'importe quel juif peut s'occuper de mathématiques, de physique et réussir à la manière d'un grec. Et parfois, comment ? Non, pas seulement Einstein. À chaque année, vous avez un certain nombre de prix Nobel qui sont juifs. Bon. Et non, et parfois, non seulement cela, mais renouveler les méthodes de scientifiques elles-mêmes. Je pense que c'est clair. Oui, c'est asymétrie. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, quand un homme de mentalité grecque s'occupe du problème de l'hébreu, alors il le dénature. Voilà où est la gravité et la symétrie de ce conflit. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. D'une certaine manière, un homme de la vocation spirituelle, c'est-à-dire qui est apte à connaître, à explorer, cet objet de la connaissance qui est en fin de compte devenu tellement étranger à la méthode occidentale parce qu'elle est héritière essentiellement de la mentalité grecque et plus tard gréco-romaine, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la liberté, de la qualité et donc le problème de la moralité. Si vous voulez, la spécialité de l'hébreu, c'est la loi morale, alors que la spécialité du grec, c'est la loi scientifique. Voilà à peu près la grande différence. Eh bien, lorsqu'un homme hébreu s'occupe du problème qui, lui, est de la vocation spirituelle, s'occupe du problème matériel, eh bien, il y met une fécondité, une aisance qui vient de la vie de l'esprit. Et, alors que l'inverse n'est pas possible. lorsqu'un homme qui est habitué uniquement aux intuitions légitimes de l'univers matériel projette sa mentalité dans l'exploration du phénomène de la vie de l'esprit, alors il l'assassine. Vous voyez la différence, hein ? C'est la raison pour laquelle, alors que la science d'origine grecque est légitime, parce que la méthode d'exploration du phénomène matériel par la mathématique est légitime, c'est la méthode de l'exploration de la quantité et au niveau du phénomène quantitatif. L'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire, le fait de percevoir le phénomène propre à la personne humaine, au sujet, donc la liberté, la moralité, à travers les catégories qui sont, elles, légitimes pour l'univers matériel, là, deviennent illégitimes. Alors, vous voyez, le schéma qui apparaît est très simple. La science d'origine grecque est légitime. La philosophie n'est pas légitime. Pourquoi ? Parce que la philosophie, ce n'est pas autre chose que projeter les méthodes de la science dans le domaine de la prophétie. Est-ce que vous voyez la différence ? Et alors, vous rattachez ça à ce que nous avons vu où est le conflit entre les Grecs et les Judéens ? Il ne sera pas au niveau scientifique. Les Judéens ne demanderont pas mieux de se faire les disciples des Grecs dans les sciences. Et très souvent, il arrive que c'est l'inverse et qu'ils deviennent les initiateurs de méthodes scientifiques, de méthodes grecques. Du point de vue de l'économie de l'histoire, ce n'est pas l'objectif d'Israël de faire la science, mais il peut y collaborer. Mais dès que les Grecs s'occupent du problème propre à Israël, l'exploration de l'univers, de l'âme, du sujet, donc le problème de la moralité, en y projetant leur méthode, c'est là que le conflit est irrémédiable. Or, les Grecs étaient assez intelligents pour diagnostiquer qu'ils avaient en face d'eux l'adversaire par excellence. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas seulement essayé de s'annexer, d'helléniser, si vous voulez, les contenus culturels judéens, comme ils le faisaient avec tous les peuples qu'ils colonisaient, ils ont voulu détruire cette identité spéciale, l'hébreu, qui mettait en échec leur conception du monde. Ça veut dire, tant que la Judée était vivante, la Grèce ne pouvait pas être triomphante. Vous voyez à peu près le problème. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Là, vous voyez, je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur cette asymétrie. L'hébreu peut faire une place au grec dans son univers. Le grec ne peut pas faire de place à l'hébreu dans le sien. Vous avez compris le problème ? Attends, j'ai pas entendu la première phrase.
Si les Hébreux sont capables de réussir dans le domaine des Grecs.
Les Hébreux, comme n'importe quel autre homme, d'ailleurs.
Non, mais ça veut dire que si les Grecs n'avaient pas créé la mathématique, les Hébreux auraient pu faire. Donc, c'est pas.
Je pense pas qu'ils l'auraient fait. Ça aurait été peut-être, je sais pas moi, les Bulgares, pourquoi pas. Ça aurait été les Bretons. Et probablement, l'histoire de la culture aurait été un conflit entre la culture bulgare et la culture hébraïque.
Quand on parle du génie grec, c'est seulement ça pouvait être les Grecs qui...
A posteriori, il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous mener à penser cela, mais ça aurait pu être un autre peuple. C'est-à-dire, ça a été le peuple qui, vivant dans cette civilisation-là, à cette époque-là, a eu les conditions socio-politiques et économiques d'être libre pour le projet intellectuel. Et alors, c'est là qu'il a réussi. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dire qu'il y avait une fatalité a priori, que ce soit Dafka, les Grecs, parmi toute la descendance de Japhet, c'est dans cette descendance que ça devait se passer, ça aurait pu être des cousins des Grecs. Je pense personnellement que ça devait être eux. Mais ce n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. La société de cette civilisation qui a été dans les conditions historiques de disponibilité pour entreprendre cette exploration de la pensée. Okay. Alors, une spécialisation de l'option a fait que s'est cristallisée une mentalité très précise, la mentalité qui ne peut percevoir la réalité qu'à travers le prisme mathématique. Et quand je dis mathématique, ça veut dire des catégories de l'impersonnel. Vous suivez ? Bon. Alors, c'est pourquoi ce conflit a été extrêmement important c'est le conflit de deux conceptions de l'univers radicalement opposées au niveau de la vie spirituelle. Alors que du point de vue, du côté de l'hébreu, elle peut être compatible au niveau de la vie matérielle. Est-ce que c'est clair? Mais l'inverse n'est pas vrai.
Alors, il n'y a aucun
à l'échelle individuelle, de tous les peuples,
c'est ça, peuvent accéder à la...
Bien entendu. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est au niveau des élites qui récapitulent l'âme d'un peuple. Il est bien évident qu'énormément d'individus dans le peuple grec, ce n'était pas grec dans ce sens-là, à l'échelle individuelle, étaient capables d'envisager l'hypothèse hébraïque. D'ailleurs, les grands penseurs de la Grèce ont eux-mêmes été capables d'envisager l'hypothèse hébraïque, mais ils l'ont rejetée comme, d'ailleurs le mot qu'ils emploient est très significatif, comme déraison, folie. Et la compétition, ce que je voudrais vous faire bien comprendre, la compétition n'est pas au niveau scientifique. La méthode grecque au niveau des sciences est légitime, à condition qu'il s'agisse des sciences de la matière. Ce qui est illégitime, c'est de projeter la méthode des sciences de la matière dans l'exploration du domaine de l'esprit. Et or, c'est ce que font les sciences humaines contemporaines de méthode universitaire d'origine grecque, même en Israël. C'est pourquoi je vous disais, le conflit, c'est finalement ici, dans la société israélienne, qu'on va le résoudre. On a un peu déjà parlé de ça. Bon, j'ai l'impression que ça va mieux.
Comment vous croyez qu'on va le résoudre?
Quelle est l'issue du conflit, tu veux dire?
Non, l'issue, mais...
T'es prophète, toi. J'allais d'Afka dire que on la connaît pas. Et on verra bien ce qui se passera demain. Non, que le conflit soit inévitable, c'est évident. Quelle est l'issue? Comme nous savons parfois qu'Israël est inassassinable, c'est Israël qui triomphera. À quel prix? Personne n'en sait rien. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, non, je parlais pas sur l'issue, je parlais sur est-ce qu'on a un point de rencontre ou est-ce que entre le domaine de l'université et le domaine.
Écoute, ce que je souhaite, c'est que les maîtres de la Torah et les spécialistes de l'université arrivent un jour à se rencontrer et à s'expliquer. Mais pour le moment, ils sont dos à dos. Et pour le moment, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun contact. Il y a une espèce de mépris réciproque absolu. Et oui, le drame, c'est que les universitaires, ce sont eux qui ont les questions qui se posent. Les maîtres de la Yeshiva, ce sont ceux qui ont les réponses qui se donnent. Le problème, c'est de les faire seuls. Voilà encore ce que je vous dirais très schématique. Bien entendu, il peut y avoir 1000 cas particuliers de synthèse individuelle réussie, plus ou moins réussie. C'est notre problème. Je veux dire que ce qui se cristallise, là, ce sont deux mentalités radicalement différentes. Okay. Et alors, à la limite, dans les extrêmes, tous les échecs sont possibles. C'est-à-dire, une des erreurs dans le monde de la yeshiva serait de refuser la science alors que la science est légitime. C'est-à-dire, étant donné qu'on veut refuser l'univers philosophique où se trouve la science, on refuse aussi la science. Ça, ce serait une erreur. Vous comprenez? L'erreur inverse, bien entendu, c'est de refuser en bloc tout ce que représente l'enseignement moral de la tradition de la yeshiva parce qu'on ne comprend pas les implications théologiques. C'est un des aspects les plus graves dans la société israélienne. Dans le camp qu'on appelle non-religieux, l'avenir de la moralité réelle au niveau de l'éducation est très en danger. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué à l'idée fausse que pour pouvoir être moral, il faut être religieux. Enfin, que ça va ensemble. Alors, comme on refuse la religion, on refuse la morale aussi. Vous avez compris le problème. Et on se retranche sur une pseudo-moralité qui est une légalité de la morale, qui n'est pas la moralité vraie. Je vais donner un exemple très simple. Je ne sais pas comment vous dire ça. La légalité de la morale, ça veut dire... j'ai en tête un exemple particulier, mais je ne voudrais pas m'en servir. C'est ce qu'il y a dans les journaux, enfin. Si vous voulez qu'on vous en parle. Bon, il y a un problème actuellement qui agite énormément la société israélienne. Un véritable scandale. il y a énormément de, j'ai oublié comment on dit ça en français, de règlements administratifs très compliqués en Israël, parce qu'il n'y a pas encore de constitution proprement israélienne, ça viendra un jour. Et actuellement, au niveau juridique, c'est un mélange de législation du temps des Turcs, puis du temps des Anglais, puis vous connaissez un peu ce problème, c'est un espèce de fouillis bureaucratique de règlements qui viennent de différentes administrations qui ont vécu dans le pays. Bon. Et alors, quand quelqu'un décide de construire une maison quelque part, il a énormément de règlements administratifs. Parfois, ça prend des années avant d'arriver à trouver le vrai formulaire qu'il faut remplir et signer. Bon. Vous connaissez ces difficultés. Donc, alors, il est arrivé qu'une famille a décidé de se construire, qui en avait les moyens, de se construire une maison, une très belle maison d'ailleurs, on la voit à la télévision chaque fois que le problème revient à la Knesset, près de Guédéra, et voilà qu'il s'avère qu'ils n'avaient pas les autorisations nécessaires du point de vue légal pour construire cette maison. Alors en fin de compte, il y a un tel souci de la légalité, parce que c'est la légalité qui prend place de la moralité, qui fait que, pour des raisons apparemment morales, mais en réalité d'un attachement à la légalité, on va finir par détruire cette maison. Okay. C'était un véritable scandale moral. C'est-à-dire, même s'il y a eu une faute administrative, qu'on n'a pas obtenu les autorisations municipales, ou peu importe, nécessaires, du point de vue de règlements, qui sont des règlements conventionnels, qui n'ont que force légale, vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, le fait de détruire cette maison, parce que il ne faut pas faire d'exception à la loi. Quelle loi ? La loi votée par le Parlement. Et c'est un problème d'ordre moral. Vous voyez comment la légalité prend le pas sur la moralité. Alors que normalement, dans une société juive, d'avoir la sensibilité juive, répugne à cela. On change le takanon, on change le règlement, mais on ne détruit pas une maison. Barou. Et puis, dans tous les cas, la vraie morale qu'enseigne la Torah est une réponse pour ces problèmes-là qui n'a rien à voir avec détruire la maison. D'autant plus, une minute. Seulement, on a mis en échec, on risque un exemple de mise en échec de l'autorité de la loi, l'autorité légale. Okay. Alors, ça risque de mettre en échec la démocratie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelle espèce de scandale. Okay. Alors, voyez, comment on va faire au nom de la loi légale un acte absolument immoral. Pourquoi ? Parce que personne n'a le courage dans ce pays, en tout cas à propos de ce problème, de taper sur la table et de dire, eh bien, vos règlements n'ont aucune base du point de vue de la loi juive. Ce sont des règlements purement conventionnels de juristes. Et puis, il faut étudier cette question à un niveau moral. C'est-à-dire, par exemple, on a fait une faute pénale contre un règlement administratif, on paye une amende, mais on ne détruit pas la maison. Vous voyez ? Lorsqu'on met le principe de la légalité à la place de la moralité, c'est la mentalité grecque qui triomphe. Je pense que c'est clair. C'est exactement ça.
J'avais lu un truc dans ce genre-là, dans un livre de Barou. Il y a un des textes de Tzedek, justement, qui dit, qu'est ce cas-là ? D'un truc qui est légal, mais qui est amoral. Alors, il demande une réponse...
Morale et pas légale. Exactement. Pas très, très bien. Tu as étudié les thèses du Tzedek, qui me rappelle ma jeunesse. Vous avez compris le problème. Bon. C'est-à-dire qu'il est bien évident que même dans un milieu religieux, il peut y avoir une mentalité de ce genre. C'est-à-dire prendre les choses à la lettre et ne pas, de façon exagérée, et de ne pas comprendre que parfois la légalité de la lettre finit par faire se conduire de façon absolument opposée à ce que demande cette même lettre. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Mais enfin, il y a une espèce de, si vous voulez, de confusion entre moralité et légalité, qui est extrêmement dangereuse. Et en général, ce sont le propre des gens qui comprennent rien à la morale qui sont légalistes. Quand vous avez en face de vous une mentalité légaliste, vous voyez, c'est la méthode mathématique appliquée au droit. Le droit n'a pas de règles mathématiques. Le droit a des règles prophétiques. Enfin, dans un autre monde. Vous comprenez là ? Est-ce que c'est clair ? Bon, il est nécessaire qu'il y ait un droit constitutionnel pour garantir l'objectivité de la loi, ça veut dire qu'elle est valable pour tous, et donc il doit y avoir une constitution qui fait foi Okay? Mais la vertu n'est pas l'obéissance à la légalité, mais à la moralité. Lorsque la légalité se substitue à la moralité, on tombe dans la mentalité gréco-romaine. Le juridisme, c'est romain, c'est pas juif. Bon. Et bien alors, c'est ce qui est arrivé avec l'aventure de la philosophie. Oui, le conflit entre les Grecs et les Judéens, ce n'était pas tellement le conflit entre la science et la religion, c'est le conflit entre la philosophie et la prophétie. La philosophie, ça consiste à explorer l'univers propre à la prophétie hébraïque avec les méthodes de la science des phénomènes matériels. C'est là qu'il faut bien comprendre. Le langage philosophique, c'est le langage scientifique projeté sur le problème de la destinée du sujet humain. Et c'est pourquoi l'atmosphère de la philosophie, dans ce problème, c'est l'atmosphère de la conscience tragique. Ça, nous avons appris d'autre part. Vous voyez, une minute, vous voyez quel vocabulaire on va atteindre, et c'est au-delà de l'image même que les mots suggèrent, c'est-à-dire que il y a une obscurité qui apparaît là où il devrait y avoir la lumière. Et cette obscurité a fini par être tellement menaçante, dangereuse, que lorsqu'il y a eu la victoire des Maccabées contre les Grecs, alors on a fêté la réapparition de la lumière. Voilà, grosso modo, l'idée qu'il faut retenir. Vous avez compris ce que je vais analyser tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a une asymétrie dans ce conflit. Les racines de cela, nous l'apprendrons dans le cours de historiographie en général. La formule que vous pouvez retenir est, au fond, assez simple. Lorsque l'homme de l'esprit s'occupe de la matière, c'est dangereux. Okay, il risque de s'y perdre. Mais s'il réussit, s'il ne s'y perd pas, il va mettre la bénédiction dans l'univers de la matière. Mais si l'homme de la matière s'occupe de la vie de l'esprit, il y met l'impureté, la mort. Est-ce que c'est clair? Bon, alors ça c'est le conflit qu'il y a eu au niveau historique entre les Grecs et les Hébreux, avant, qui étaient les Judéens, avant la diffusion de la Bible. Ça je vous ai dit souvent, qu'ensuite les héritiers des Grecs ont lu la Bible, et il y a un mélange qui se produit dans leur mentalité. Ils parlent des choses de la Bible, mais avec, finalement, la mentalité grecque. Je crois que l'exemple le plus évident de cette pensée, enfin, attitude, culture mixte, grec et hébreu, monstrueuse d'ailleurs, c'est la pensée chrétienne. En particulier, vous avez entendu parler de saint Paul, okay, et qui dit, pas le quartier juif à Paris, okay, et qui dit très clairement, dans un de ses discours, ni juif ni grec. Vous voyez, très, très précis. Il dit, qu'est-ce que c'est un chrétien? Ben c'est fini, ni juif ni grec. Et il ajoute, ni homme ni femme. Et c'est dans le même verset. Et un jour, j'ai eu l'occasion de dire ça à un curé, ben vous voyez, tant qu'il y a des hommes et des femmes, il y a aussi des juifs et des grecs. Et, c'est-à-dire, il a bien voulu viser le vrai problème, l'opposition entre les Grecs et les Juifs. Alors le christianisme apparaît comme une sorte de mixité, de pensée mixte entre ces deux problèmes. Et oui, je vais arrêter. Et c'est évidemment la projection de la mentalité grecque sur la Bible. Et vous voyez pourquoi, d'une religion de vie, ils ont fait un culte de mort. Vous entrez dans une église, ce n'est vraiment pieux que si c'est obscur. Vous avez remarqué ça? Tandis que dans une synagogue, c'est vraiment pieux que s'il y a de la lumière. Vous avez remarqué le... Bon, enfin, ça, on reparle un peu plus en détail. Ben, vous n'avez pas de chance, j'ai l'impression que ça vient de s'arranger. Donc, alors on se reverra.